le podcast des critiques littéraires du Collège Pierre de Coubertin.
L'interview. Bonjour Claude Clément, vous avez eu la gentillesse de répondre à quelques questions pour le podcast de critiques littéraires du Collège Pierre de Coubertin, La vie des livres. Nous nous posons des questions d'abord sur l'écriture. Depuis combien de temps écrivez-vous des livres ?
Alors, des livres, des vrais livres publiés, ça fait une trentaine d'années. Mes premiers ouvrages, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs choses la même année, c'était en 1980. Donc vous voyez, ça remonte à loin et j'ai continué, et voilà. Donc ça fait assez longtemps que je publie des livres.
Avez-vous un autre métier ou vivez-vous de l'écriture ?
Je dirais que oui et non, parce que c'est l'écriture qui me permet de faire les métiers complémentaires. C'est-à-dire que j'avais aussi fait du théâtre, de la musique, de la chanson, et je suis revenue au théâtre, à la musique et à la chanson grâce au fait que j'ai publié des livres. C'est-à-dire que comme j'ai publié des livres où la musique a souvent sa place, j'ai eu envie de travailler avec des musiciens et du coup, j'ai fait aussi des spectacles. Donc voilà, j'ai deux métiers, à la fois l'écriture, donc le livre, et la scène.
Passez-vous beaucoup de temps à écrire ? Écrivez-vous tous les jours, par exemple ? Pendant combien de temps ?
Alors, non, on n'écrit pas tous les jours parce qu'on n'a pas des idées tous les jours, en particulier, je dirais, pour les albums où on peut s'y mettre à fond. Pendant un bon moment, mais c'est quand même relativement court, un album. On travaille, on cisèle, on travaille beaucoup l'écriture dans sa qualité. Par contre, quand j'écris un roman, si je ne m'oblige pas à écrire un petit peu tous les jours, ou quand j'ai écrit, comme récemment, une biographie d'un compositeur, musicien qui s'appelle Frédéric Chopin, si je ne m'y étais pas mise tous les matins, je ne l'aurais jamais fini. Et je me serais peut-être lassée en cours de route. Donc c'est une discipline sur les ouvrages un peu longs de s'y mettre régulièrement.
Faut-il faire des études particulières pour devenir écrivain ?
Alors je suis très contente de dire que non. Je trouve que si tout le monde faisait des études pour devenir écrivain, il n'y aurait peut-être que des professeurs de lettres qui deviendraient écrivains. Je trouve que c'est très bien que n'importe qui, ayant un don pour l'écriture, puisse se dire, ben voilà, j'ai envie d'écrire. Alors, ce qui peut m'agacer un petit peu, quelquefois, c'est de voir, il y a des acteurs de cinéma qui écrivent très bien. Hein. Ça arrive, j'en ai rencontré dans les salons, et donc ils ont le droit, comme tout le monde, d'écrire des livres, mais c'est vrai que les gens déjà très médiatisés qui se mettent tous à écrire leurs bouquins, ça m'agace des fois un petit peu, parce que c'est pas vraiment toujours de la littérature, et quelquefois ils font aussi écrire les livres par d'autres, et c'est eux qui les signent, donc ça peut être agaçant. Maintenant, moi je trouve très bien que c'est un acte de liberté, l'écriture est un acte de liberté, et je trouve que c'est très bien que n'importe qui puisse écrire un livre.
N'écrivez-vous que des contes ou aussi des poésies, des romans ? Y a-t-il toujours du merveilleux dans vos livres ?
Alors, j'ai une prédilection pour le conte, parce que j'aime le merveilleux, justement. Mais je suis contente que tu poses cette question, parce que je suis loin d'avoir fait que ça. J'ai écrit des romans, j'ai écrit deux recueils de poésies, j'ai écrit une pièce de théâtre, Mozart, côté court, donc qui est aussi... Il y a une relation très étroite avec la musique. Et surtout, j'ai eu la chance inouïe sur un livre qui s'appelle Le luthier de Venise, d'écrire un opéra pour le théâtre du Châtelet. Alors ça, c'était le grand truc de ma vie, le plus beau souvenir que je puisse imaginer, parce que j'ai été obligée, pour que ça devienne un opéra, d'écrire une pièce, en fait, à partir de mon ouvrage, et aussi toutes les paroles des chants. Que ce soit des chanteurs principaux, des chœurs, etc. Ça, c'était un énorme boulot qui m'a demandé 4 ans de collaboration avec le compositeur. Mais je trouve ça sublime d'avoir eu cette opportunité-là, qui ne m'arrivera peut-être jamais plus d'ailleurs. Mais tu vois, à partir d'un livre qui n'est que, si je puis dire, j'aime pas dire ça, un album, on a pu faire une œuvre beaucoup plus consistante, si je puis dire. Mais ce n'est pas du tout pour dévaloriser l'album que je dis ça, au contraire. Ça prouve que l'album est une porte ouverte sur beaucoup d'autres choses. Et donc, je choisis toutes les opportunités que je peux trouver pour me servir de mon écriture dans d'autres domaines.
Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir écrivain? Aviez-vous de bonnes notes en rédaction quand vous étiez au collège?
Alors, je mentirais si je disais que non, parce que c'est aussi très bien porté de dire non, j'étais un cancre, j'étais nulle, et voilà, je suis devenue écrivain quand même. Non, c'est vrai, j'ai toujours aimé écrire et j'avais des bonnes notes en rédaction. Mais je ne crois pas que mes profs de français au collège ou au lycée pensaient que j'allais en faire mon métier. Et c'est pas non plus un métier qui est venu, comment te dire? C'est venu petit à petit. J'ai toujours écrit, mais j'ai fait plus de chansons et de théâtre au début que d'ouvrages. J'avais quand même fait deux ouvrages qui n'ont jamais été publiés. Et puis, on m'a quand même encouragée dans les maisons d'édition à persévérer. Et le jour où j'ai fait des comptes, là, les portes se sont ouvertes. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un signe, quelque chose. Comme j'aimais aussi beaucoup la peinture, j'ai trouvé extraordinaire d'être illustrée par des gens formidables. Et donc, j'ai beaucoup continué dans ce registre-là. Et je me suis trouvé un terrain qui m'allait très bien dans le conte et le merveilleux. Donc, j'ai continué pas mal dans cette direction-là. Ce qui ne m'a pas empêchée, comme je te dis, de continuer dans les autres.
Aimiez-vous lire quand vous aviez notre âge? Quel était votre écrivain préféré?
Alors oui, j'aimais énormément lire et puis il faut vous dire que les circonstances, et ça répond peut-être encore mieux à la question précédente, je suis née dans l'Atlas marocain, dans un endroit extrêmement isolé. Je n'avais pas de frères et sœurs. J'ai eu des copines et des copains que quand je suis allée à l'école à Marrakech. Mais comme mes parents travaillaient toujours dans l'Atlas, j'allais quand même les voir des grandes périodes de vacances. Donc la lecture était une activité essentielle pour moi parce que je n'avais pas beaucoup de contact avec des enfants de mon âge. Donc ça a beaucoup, beaucoup compté dans ma vie, les bouquins, la lecture. Il y avait moins de choix qu'à votre époque. Donc je lisais des livres peut-être un peu plus difficiles, Jules Verne très tôt. Bon, j'ai lu La Comtesse de Ségur, c'était un peu la lecture obligatoire à mon époque. Mais en même temps, on n'avait pas le choix que vous aviez. Et puis je reviens sur cette idée de conte. J'avais des conteurs marocains beaucoup autour de moi. Alors je comprenais pas tout le temps tout ce qu'ils disaient, bien qu'à l'époque je comprenais un peu l'arabe. Mais il y avait cette espèce d'ambiance avec comment dire, une façon de raconter qui était très musicale, très scandée, avec une voix qui chantait presque. Et je crois que ça a énormément eu d'influence sur ma vie et mes choix d'écriture.
Nous avons d'autres interrogations autour du Lutite de Venise. Travaillez-vous souvent avec Frédéric Clément?
Alors nous avons travaillé, Frédéric Clément et moi, trois fois seulement. Mais le fait que nous nous appelions Clément tous les deux a laissé penser aux gens que nous étions peut-être parents, soit mariés, soit frères et sœurs. Enfin bon, j'ai tout entendu, des gens qui affirmaient ça sans le savoir. Et en fait, nous nous sommes rencontrés sur certains points d'inspiration. Je lui ai proposé un premier texte qui s'appelle Le peintre et les cygnes sauvages, qui a eu pas mal de succès. Et donc les gens ont aimé ça. On a fait dans la foulée Le Luthier de Venise. Lui avait surtout envie de faire un livre sur Venise. Et moi, j'avais cette idée de faire un livre sur un luthier. Et quand on en a discuté, j'ai dit, mais pourquoi pas à Venise, ce luthier? Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et puis, j'ai fait un troisième livre avec lui qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle La Funambule et l'Oiseau de Pierre, que moi, j'aime beaucoup. Il avait changé son style à cette époque-là vers tout ce qu'il fait maintenant, avec beaucoup plus de tagage, de collage, de matière. Et j'adore ce livre, mais les gens le connaissent un petit peu moins. Le livre de nous qui est vraiment le plus connu, c'est Le Luthier de Venise qui nous poursuit toute notre vie. Mais nous avons fait beaucoup de choses, lui et moi, séparément, et beaucoup de choses depuis. Hein? Ceci étant dit, Frédéric reste un ami et nous sommes très heureux de nous rencontrer sur des salons.
Qui a eu l'idée de départ de ce livre, Frédéric Clément ou vous?
J'allais dire ensemble, j'ai déjà un tout petit peu répondu à la question. On se connaissait déjà. On s'est donné un rendez-vous au café pour discuter comme ça de choses et d'autres. Et puis de nos projets, donc on parle de choses et d'autres. Et lui me dit une chose qui est vraie aussi pour moi, les villes l'inspiraient. Et moi c'est pareil, les villes m'inspirent, certains endroits, pas seulement les villes, des lieux, mais les villes, parce qu'il y a toute une histoire derrière, le passé présent. Et justement, il avait envie de faire un livre qui se passe à Venise, et moi je lui ai dit, bah, écoute, j'ai une histoire de luthier en tête, pourquoi pas à Venise. Donc c'est venu à une table de café, et on a décidé de faire ce livre-là ensemble. Et la funambule et l'oiseau de pierre, c'est un peu pareil, parce que j'avais envie d'une histoire qui confronte le passé, le présent dans une ville. Et il m'a dit, moi, il y en a marre, on met toujours les contes dans des villes, soit très belles comme Venise, soit dans des villes imaginaires. Et moi, j'aimerais bien que ça se passe dans une ville contemporaine, avec des tags, des affiches déchirées, etc. Et j'ai trouvé que l'idée était excellente et on a fait la funambule et l'oiseau de pierre comme ça. Mais pour le luthier, c'est venu à une table de café tous les deux.
Les illustrations sont-elles importantes pour vous dans ce livre ?
Oui. À partir du moment où j'ai choisi d'écrire des albums, et j'aime beaucoup les albums parce que je peux me permettre de faire une écriture poétique qui me permet de faire de la poésie dans des livres grand public par rapport au recueil de poésie, mais en même temps, par goût, j'aime tous les arts. Comme vous le voyez, j'ai fait beaucoup de livres qui ont un rapport avec la musique, mais j'aime aussi la peinture, j'aime tous les arts et j'aime beaucoup faire des passerelles entre les arts. Et l'album, c'est un outil merveilleux pour ça, parce qu'on peut faire un texte très littéraire qui s'adresse à tous les âges et avoir des illustrations de toutes sortes, de tous styles, selon le sujet. Et vraiment, c'est vrai qu'avec Frédéric, on s'est vraiment très bien rencontrés sur le Prédestine sauvage et sur le luthier de Venise. Voilà. Mais j'ai travaillé avec d'autres illustrateurs avec qui j'ai eu aussi de grandes affinités. Donc l'album est merveilleux pour ça.
Pourquoi avez-vous choisi ce thème ?
Sur le luthier, tu veux dire ? Oui, alors là, c'est autre chose. C'est aussi une rencontre, mais une rencontre au départ télévisuelle. J'ai vu une interview d'un très grand luthier français qui était connu dans le monde entier, qui s'appelle Étienne Vatelot, mais qui est mort depuis. Et j'ai eu la chance de le rencontrer après, en fait. Je ne l'ai pas rencontré avant, lui. J'ai vu une émission très belle, très profonde, où il parlait de son métier avec des larmes dans les yeux et des sanglots dans la voix, et ça m'a émue et ça m'a donné envie. J'ai toujours été très attirée par les facteurs d'instruments, on appelle ça des facteurs, du verbe faire. Hein. Et mon grand-père maternel était facteur de piano, et je vis maintenant avec un facteur de piano. Donc je pense que j'ai toujours été attirée par la facture instrumentale, et c'est ça qui m'a poussée à écrire le luthier de Venise.
La musique est-elle importante pour vous ?
Très. Elle est presque plus aussi importante, pas plus, mais aussi importante à tout point de vue. Je veux dire, je regrette de ne pas être musicienne, parce que je trouve que c'est un langage vraiment universel, alors que mes livres, il y en a qui sont traduits, certes.
Pourquoi avez-vous inséré des citations en Venise ?
Alors là, c'était plus une idée graphique. Dans l'ouvrage précédent que j'avais fait avec Frédéric Clément, le peintre et les signes sauvages, nous avons mis des calligraphies japonaises sur une idée graphique de Frédéric, et j'avais écrit un poème qui est à la fin du livre pour qu'on puisse calligraphier ce poème en marge des illustrations de Frédéric. Et là, on se posait la question de refaire quelque chose du même ordre, et moi j'avais un peu dans l'idée de mettre une partition de Vivaldi, et Frédéric trouvait que c'était trop évident et que lui adore les choses un peu décalées, et vous avez remarqué qu'il aime les choses un peu décalées, et donc il a préféré le fil rouge qui traverse tout le livre, mais l'éditrice trouvait que ça suffisait pas, Et donc, elle a eu cette idée de faire traduire en vénitien, hein, c'est du dialecte vénitien, quelques phrases du livre essentielles, comme ça, qui suivent tout au long du fil rouge que souhaitait Frédéric. Et je trouve que c'est une très bonne idée aussi.
Quoi, l'un des personnages principaux est-il un vieil homme ?
Au début du livre, il n'est peut-être pas si vieux que ça. Et à un moment, je dis « le temps passa ». Et ce n'est pas que je voudrais dire que tous les luthiers sont vieux, la question n'est pas là. C'est que dans le métier de luthier, surtout autrefois, il laissait vieillir le bois très 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 longtemps avant de s'en servir. Donc là, je voulais montrer qu'il avait attendu. Quelquefois, les luthiers stockent du bois pour la génération d'après, hein. Donc, du temps de Stradivarius, c'était ce qui se passait. Il allait choisir le bois et quelquefois, c'était des années plus tard qu'il s'en servait. Et donc, j'ai voulu montrer l'importance du temps dans ce métier. Et là, comme il s'agissait du bois de l'arbre qu'il avait accompagné une bonne partie de sa vie, j'ai voulu montrer qu'il le laissait sécher aussi très, très, très longtemps avant de s'en servir. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en déduire que tous les luthiers sont vieux. Moi, j'en connais. Alors, ce livre m'a fait connaître des tas de luthiers après, qui aiment bien mon livre. Il y a beaucoup de luthiers qui aiment bien mon livre, donc je suis très contente. Ça prouve que ça les touche et que je n'ai pas dit de bêtises sur leur métier. Encore qu'on ne peut pas faire un instrument, un violon, avec le bois d'un seul arbre. Mais ils l'acceptent comme une licence poétique. Et du coup, j'ai connu beaucoup de luthiers après, et même avant, parce que j'ai quand même visité des ateliers pour voir comment ils travaillaient. Et après, bah, y a pas mal de luthiers qui ont bien aimé mon ouvrage, que j'ai eu l'occasion de croiser, de rencontrer, de devenir amie avec. Et il y en a même un luthier de Vielle avec qui je suis restée très amie, et à cause de qui j'ai fait un autre livre sur un luthier qui s'appelle Longtemps. Voilà.
Quel message avez-vous voulu faire passer dans ce livre ?
Oui, il y en a un sur le temps, justement, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où il faut que tout aille vite et que je pense que dans certains métiers, le temps comptait énormément et que c'est pour ça qu'on faisait du bon travail. Hein, dans le métier de luthier en particulier, il faut plus de 200 heures, non pas continues, mais avec des temps de pause, de séchage, etc., pour faire un violon. Pour faire un violon de A à Z, il faut plus de 200 heures de travail, mais réparties sur je ne sais pas combien de mois, voire des années. Moi, je vis avec un restaurateur de piano ancien. Je peux vous dire que quand il commence, il ne sait jamais quand il va finir, parce qu'il tombe des fois sur des difficultés. Et donc, j'ai écrit un piano sur son dos, mon dernier ouvrage, mon dernier album, en hommage à mon compagnon. Et parce que je le vois à la fois passer un temps fou sur la réparation de ses pianos, et en plus, il les porte réellement, si je puis dire, sur son dos pour aller les chercher, les relivrer. Et quand ils arrivent chez lui, destroyed, et qu'ils repartent magnifiques chez le client, on se rend compte qu'on ne peut pas faire ça en très peu de temps. Pour moi, je passe ce message-là du perfectionnisme aussi. Chaque fois que Serge, mon compagnon, finit un piano et a verni au tampon, millimètre par millimètre, des surfaces considérables, il me dit « c'est fini, je ne ferai plus, la prochaine fois je le ferai au pistolet ». Puis il ne le fait pas, il continue à faire ses pianos avec son tampon, et je trouve ça extraordinaire. Et je voulais passer un message de passion du métier, de ne pas bâcler, d'y passer le temps qu'il faut par amour du métier, des choses comme ça, et d'être très sincère dans sa démarche. Dans le luthier de Venise, il y a la sincérité du luthier, mais tant que le violoncelliste, qui est une star, n'a pas retrouvé sa sincérité d'artiste, l'instrument se dérobe à lui. Hein, c'est très important dans mon histoire, ça. Hein, j'espère que vous l'avez perçu. Le star system, pour moi, ce n'était pas ça, quoi. C'est un très bon violoncelliste, le musicien de mon histoire, mais l'instrument se dérobe à lui tant qu'il n'a pas retrouvé son vrai cœur et sa vraie authenticité d'artiste. Oui, c'est une sorte de message. J'aime pas trop le mot, mais bon, disons que c'est quand même un message.
Et pour terminer, êtes-vous en train d'écrire un nouveau livre ? Pouvez-vous nous en parler ?
Alors, oui, on écrit toujours un nouveau livre. Disons que j'ai des projets qui ne sont pas encore acceptés. Hein. J'ai un texte que j'ai du mal à faire passer, qui m'a été inspiré par une chanteuse italienne qui chante des chants populaires italiens. Et j'ai inventé une histoire qui est assez vraie, bien que je l'ai imaginée, sur les repiqueuses de riz des rizières italiennes et une femme qui chante alors qu'elle est enceinte et justement son enfant devient une chanteuse après. Et j'ai du mal à faire passer ce texte, je l'avoue. Et puis j'ai un autre projet. Je suis assez prudente sur le projet parce qu'il vient plutôt de l'illustratrice. J'ai pas envie qu'on lui pique l'idée. C'est sur un ballet qui existe et comme l'histoire est belle, je réécris le ballet, le thème du ballet pour elle. En apprenant l'italien, parce que mes ancêtres sont italiens, donc j'apprends l'italien en ce moment, j'ai rencontré un vieux monsieur aussi qui m'a intéressée parce qu'il a été mineur à 14 ans et il est tombé fou amoureux de l'opéra grâce à un autre mineur italien. Et je trouve que c'est tellement beau comme histoire. Et maintenant, ce monsieur qui n'avait pas de diplôme, qui a fait un boulot super dur toute sa vie, il va à l'opéra et il apprend l'italien exprès pour entendre l'opéra. Et j'ai envie d'écrire un roman qui parle un peu de ça. Voilà, je n'ai pas commencé, mais c'est un projet. Voilà, donc j'ai souvent pas mal de projets en route et de plus en plus liés à la musique, je dois dire.
Si vous étiez musicienne, vous joueriez de quel instrument?
Alors, je le suis un tout petit peu, mais j'aime pas trop le dire parce que je joue pas bien. Mais j'ai beaucoup chanté, par contre. Alors, j'ai fait un peu de guitare, mais je suis pas très bonne. Mais surtout, ma mère était pianiste et elle a jamais voulu que j'apprenne la musique et que je fasse du piano. Mais c'est resté comme un regret. Donc, c'est vrai que je suis très sensible à tous les instruments quand ils sont bien joués. Hein. Mais moi-même, je suis restée une musicienne frustrée. Et c'est vrai qu'au départ, ma frustration, elle venait du piano. Il y avait un piano à la maison et je ne pouvais pas m'en servir et je ne savais pas m'en servir. Et c'est resté toujours un regret pour moi. Donc, c'est vrai que maintenant que je vis avec quelqu'un qui est dans le piano, je suis très heureuse d'être entourée de pianistes absolument tout le temps. Mais moi, c'est trop tard pour que je m'y mette. Par contre, je me venge. C'est-à-dire que j'ai écrit donc un piano sur son dos en hommage à mon compagnon et j'ai écrit une biographie, c'est-à-dire la vie de Frédéric Chopin, Frédéric Chopin, l'âme du piano. Et là, j'étais dans le piano à fond, j'ai écouté des quantités de disques, j'ai lu des tas de livres dessus, voilà. Donc c'est vrai que je suis très très sensible au piano, mais je suis très sensible à beaucoup d'autres instruments. Ma belle-fille est harpiste de très bon niveau, mon fils est plutôt guitariste. Donc je veux dire, du moment que c'est bien joué, je ne suis pas allergique à un instrument. Alors j'ai des petites préférences. J'aime beaucoup le saxophone. J'aime la guitare parce que j'en ai fait, parce que mon fils en fait, parce que j'ai entendu des très grands guitaristes. J'adore le violon. Les grands violonistes me fascinent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai rencontré des fois des flûtistes extraordinaires. J'organise des concerts dans l'atelier de mon ami et il n'y a pas longtemps, il y a un flûtiste formidable qui est venu. Donc, ça m'a passionné, ce flûtiste. Qu'est-ce que je peux dire encore? Même des instruments pas aussi des fois respectés comme l'accordéon. Il y a des accordéonistes absolument fabuleux. On en parlait hier soir avec mes collègues.
Merci Claude Clément d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'était La vie des livres, le podcast de critique littéraire du Collège Pierre de Coubertin.